vient la laïcité. Comment cette idée est-elle apparue en France pour culminer au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905? Comment l'Église a-t-elle évolué face à ce phénomène qu'elle ne maîtrisait pas? Autant de questions dont les réponses permettent de comprendre la manière dont la société française d'aujourd'hui vit cette laïcité. Directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales, le professeur Émile Poulat est historien, spécialisé dans les conflits entre la culture catholique traditionnelle et la culture moderne laïque. Outre quelques ouvrages sur la laïcité, il a publié en 2007, suite à une mission ministérielle qui lui avait été confiée, un ouvrage sur les associations diocésaines. Il revient pour nous sur l'émergence de ce concept de laïcité.
On peut faire remonter la laïcité, ses premiers balbutiements, avec des hommes comme Montaigne et surtout au XVIIIe siècle Montesquieu. Ou bien encore, si vous voulez, aux guerres de religion avec le parti des politiques, le chancelier Michel de l'Hospital, qui estimait que la paix civile était une affaire trop sérieuse pour être abandonnée à ces religions qui se déchiraient. On aboutit là, si vous voulez, à deux visions ou deux origines de la laïcité, ce que j'appellerais la pacification des esprits par le droit, ou bien alors, sous l'influence des Lumières, l'émancipation des esprits par la raison.
Après cette première étape, c'est la Révolution française qui a été un tournant marquant pour la laïcité.
Le véritable changement, précisément, s'inscrit dans les institutions à partir de la Révolution française. C'est-à-dire que nous passons d'un régime de catholicité, où le catholicisme était religion de l'État, du roi, du royaume et de ses habitants, et seule religion. Si vous voulez, nous passons au contraire à un régime qui pose le principe de la liberté publique de conscience pour tous. Et je dirais que ça, c'est la véritable date de fondation institutionnelle de la laïcité, alors même que le mot n'existe pas encore.
Une laïcité qui se met donc en place progressivement, qui se découvre tranquillement et qui s'établit finalement dans la durée.
On peut distinguer dans la laïcité trois dimensions successives. Premièrement, la laïcité a été une idée de quelques-uns et une revendication de quelques-uns. Et puis, au cours du XIXe siècle, elle s'est étoffée, elle est devenue un programme. Ce programme s'est réalisé avec les 25 ans de loi laïque qui vont de 1880 à 1905 et qui ont commencé par la laïcisation de l'enseignement, avec la laïcisation du personnel des hôpitaux et puis la séparation des églises et de l'État. Et puis troisièmement, on a abouti à un régime. Autrement dit, la laïcité comme une idée, comme un programme, et la laïcité comme un régime, c'est-à-dire le régime qui nous gouverne. Et là, nous ne sommes plus dans les idées. Nous sommes dans les faits.
La question des cultes rejoint donc la dimension publique de l'expression de la foi, une dimension qui est mise à mal pour l'Église. Mais ce changement, finalement, touche avant tout au nerf de la guerre, c'est-à-dire à la question financière.
Le législateur de 1905 n'a pas besoin du mot laïcité, il l'ignore, mais à ses successeurs, la loi de 1905 apparaît comme un pilier fondateur de notre laïcité. Alors, rappelez-vous les principes posés par cette loi de 1905. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Deuxièmement, la République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Par conséquent, je crois qu'il faut voir que la loi de 1905 a une portée très forte, mais en même temps très limitée. Le mot « séparation » ne figure pas dans la loi. Ce qui figure dans la loi, c'est la suppression du budget des cultes. Par conséquent, la loi de 1905 se limite à ce qu'on appelait depuis le concordat, les cultes. Qu'est-ce que les cultes? Ce n'est pas simplement la célébration de l'office divin, ça c'est l'affaire du clergé. Ce qu'on appelle les cultes, à l'époque, c'est la vie paroissiale dans le cadre diocésain. Et par conséquent, tout ce qui fait la vie et le ministère du prêtre.
L'Église a donc du mal à se positionner face à cette réalité nouvelle qu'est la laïcité. Il faut bien reconnaître qu'au début du XXe siècle, elle a mal vécu ce conflit qui éclatait, même si elle s'est finalement adaptée. La question financière, liée aux lois de 1905, par exemple, n'a pas été aussi dramatique que l'on pourrait l'imaginer. En effet, jusqu'à 1923 et la mise en place des associations diocésaines qui gèrent les finances de l'Église, cette dernière a continué à être présente à la société. Mais cette question financière pose encore problème à Émile Poulat, notamment sur les conséquences de ces lois de 1905.
Il y a un point obscur et qui n'est pas prêt d'être éclairci. Quelle était la part du budget public des cultes dans le budget réel des diocèses? Bien des diocèses avaient un budget parallèle, leurs ressources propres qui s'ajoutaient à la dotation faite par l'État et qui consistait essentiellement à 90% au traitement des ministres du culte. Alors, les diocèses riches et les paroisses riches n'ont pas trop mal vécu tout ça, et parfois même sans difficulté. En revanche, ceux qui ont souffert, ce sont les diocèses pauvres et les paroisses pauvres, donc principalement les départements ruraux, comme la Creuse, la Corrèze, etc.
Malgré ces lois de séparation et la mise en place du régime de laïcité, des relations ont cependant subsisté entre l'Église et l'État.
Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la séparation n'a pas été une séparation intégrale, c'était une séparation partielle, puisque l'État et les communes étaient propriétaires de la quasi-totalité des édifices du culte, que la loi de 1905 a confirmé cette propriété et que la loi de 1905 a également mis les édifices du culte à la disposition du clergé catholique gratuitement et à titre perpétuel et exclusif. Il y avait donc, si vous voulez, un certain nombre d'avantages extrêmement forts, y compris sur le plan financier.
Mais le problème n'était pas que français. L'Église universelle, avec le pape, s'opposait en effet à ce système, pour plusieurs raisons très diverses.
Indépendamment de l'Église de France, qui était plutôt portée à l'accommodation, au compromis, il y a eu la position intransigeante du pape Pie X, qui reposait sur deux raisons. La première était une raison de principe, c'est-à-dire que l'Église est contre la séparation. Et puis la deuxième raison, qui était beaucoup plus grave, c'est que la loi de 1905 substituait à l'ancienne organisation des associations de droit privé et que l'Église se méfiait de cette logique associative qui s'opposait à sa logique hiérarchique. Le problème a été réglé en 1923-24 par une négociation entre la France et le Saint-Siège, si vous voulez, mais tant que cette question, ce conflit entre logique associative et logique hiérarchique n'a pas été réglé, le problème était insoluble.
Aujourd'hui, des rencontres régulières entre l'État et la Conférence des évêques de France ont lieu, preuve d'un apaisement des relations, voulu finalement par toutes les parties en cause.